Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 253, toujours sur le thème très important qui concerne la guérison. Nous en sommes à troisièmement de cette nouvelle série, donc à troisièmement, Dieu n'a pas seulement pourvu à la guérison dans l'Ancien Testament, mais il a aussi pourvu à la guérison dans le Nouveau Testament. Oui, Dieu n'a pas seulement traité la maladie et pourvu pour la guérison dans l'Ancienne Alliance, mais il a aussi traité la maladie et pourvu pour la guérison dans la Nouvelle Alliance. La plupart des gens qui ont étudié la Bible savent que Dieu a traité la maladie dans l'Ancien Testament. De plus, les Écritures vétérotestamentaires nous enseignent ce que relève de la nature de Dieu, car dès que Israël, qui est le peuple qui avait fait alliance avec Dieu, sortit de l'Égypte et se mit en route vers la terre promise, Dieu leur a dit, selon Exode chapitre 15, verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode, chapitre 15, verset 26. Donc, le texte hébreu nous dit littéralement « Je ne permettrai à aucune de ces maladies de t'atteindre comme j'ai permis qu'elles atteignent les Égyptiens. » Remarquez bien que spécifiquement, Dieu n'a pas accablé Israël ou les Égyptiens par la maladie. C'est Satan qui est le Dieu de ce monde et qui afflige les gens. En l'occurrence, le Dieu Très-Haut affirme qu'il est le sauveur d'Israël. Et par la suite, au chapitre 23 de l'Exode, Dieu dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. » Exode, chapitre 23, versets 25 et 26. Un jour, un pasteur posa une fois cette question. « Si vous ne tombez pas malade, mais alors, comment vous faudra-t-il mourir un jour ?» Mais le verset 26 répond parfaitement à cette question. « Je te ferai parvenir à un âge avancé. » Dieu avait promis qu'il écarterait la maladie du milieu d'eux. Cela veut dire qu'ils passèrent en portant simplement leurs affaires, voyez-vous, et ils ont pu ainsi dormir, rentrer dans leur pays, sans aucune maladie. Dieu, on peut dire, est béni par cela, et qu'il soit vraiment béni. Il est un fait remarquable, voyez-vous, que aussi longtemps que Israël a marché dans l'alliance que Dieu avait conclue avec lui, eh bien, il n'y a eu point de maladie parmi ce peuple. Et tant que Israël a gardé l'alliance, aucune mention de mortalité infantile ou de mort d'adolescent n'a été faite. Donc, il n'y avait pas de mort prématurée, car chacun atteignait l'âge de la maturité avant d'avoir accompli tout son travail. Vous voyez, le Seigneur Dieu était bel et bien leur seule nécessité. Maintenant, si nous regardons le livre du Deutéronome au chapitre 7, Dieu dit à Israël, il t'aimera, il te bénira et il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail dans le pays qu'il a donc juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tout ton troupeau. Et l'Éternel écartera de toi toute maladie. Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Deutéronome chapitre 7, versets 13 et 15. Alors, ceci mentionne la façon dont Dieu aimera, bénira et multipliera ses enfants. Il dit aussi qu'il bénira le fruit de leurs entrailles, le fruit de leur pays, et qu'il augmentera leurs troupeaux. En d'autres termes, il leur donnera une postérité matérielle. Ils seront bénis au-dessus de tout peuple. Voyez-vous, tout ce qui touche au peuple de Dieu se doit de porter la marque de la prospérité et de la réussite. La souffrance et la maladie ne doivent pas être tolérées parmi eux. Considérons maintenant le verset 15 de Deutéronome chapitre 7. Là, il est dit « Et l'Éternel écartera de toi toute maladie, vous avez bien entendu, et ne t'infligera, ou, comme l'hébreu le dit, il ne permettra que jamais aucune des mauvaises épidémies d'Égypte puisse t'atteindre. » Donc, dans notre Bible française, le livre des psaumes en comprend 150. Or, la Bible hébraïque, quant à elle, elle comprend 5 livres de psaumes qui correspondent aux 5 premiers livres de la Bible et que nous appelons le Pentateuque. Alors, ces livres des psaumes étaient pour le peuple d'Israël à la fois des psautiers et des livres de prière. Si vous lisez les psaumes avec attention, ils mentionnent continuellement que Dieu est celui qui donne la santé à Israël. L'un des exemples les plus importants se trouve dans le psaume 103. Là, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, et qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, versets 3 à 5. Ainsi, il est donc évident que ce n'est que par la désobéissance d'Israël que la maladie a pu atteindre ce peuple. Le pardon de leur désobéissance signifie la guérison de leur corps. Laissez-moi répéter ceci. le pardon de leur désobéissance signifie la guérison de leur corps. Dans ce verset, Dieu dit-il, celui qui pardonne toutes tes fautes, c'est ce qu'il dit Dieu. Celui qui pardonne toutes tes fautes, celui qui guérit la moitié des maladies ou toutes à part une seule. Eh bien non, non, assurément pas. Mais il est bien dit toutes tes maladies, voyez-vous. Et dans le psaume 107, après que Dieu a dit au peuple d'Israël, selon le verset 11, que les causes de sa maladie et de ses souffrances proviennent de sa rébellion contre la sainte parole de Dieu et de sa condamnation du conseil du Très-Haut, il déclara « Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse et il envoya sa sainte parole et les guérit. Donc, il les délivra de leurs infections. » Vous pouvez noter le psaume 107, versets 17 à 20. Ils sont malades, ils approchent des portes de la mort, et puis là, ils crient à l'Éternel qui, lui, les sauve. Donc, il leur envoie sa sainte parole. Ainsi, il les guérit et il les délivre. Voyez-vous, d'eux-mêmes, ils s'étaient retirés de la protection de l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. C'était le libre choix. Il était dans le plan de Dieu qu'ils accomplissent toutes leurs années en vivant sans souffrance et sans maladie. Nous pouvons nous réjouir à la lecture de tous ces versets, mais des gens se laisseront aller à leur incrédulité et ils diront « Oui, oui, c'est bien tout cela, mais tout ceci appartient à l'Ancien Testament. C'est uniquement pour Israël et surtout pas pour nous. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Y a-t-il en Dieu une différence par rapport à ce qu'il était dans ce temps-là? Aurait-il changé? Est-il le même Dieu aujourd'hui? Si Yahvé l'Éternel s'opposait alors à ce que son peuple soit malade, il y est tout aussi opposé maintenant, car Dieu, il me semble, ne change jamais. Souvenez-vous, le troisième principe le plus important que vous devez connaître à propos de la guérison, c'est que Dieu n'a pas seulement traité la maladie et pourvu à la guérison dans l'Ancien Testament, mais il a aussi pourvu à la guérison dans le Nouveau Testament. Je me souviens de quelque chose de capital que Jésus-Christ m'a dit un jour par le Saint-Esprit. Il me parlait précisément à ce sujet et il me dit « Le peuple d'Israël n'était pas les fils de Dieu, cohéritiers. » Voyons cela de plus près. « Ils ne sont jamais nés de nouveau. » Ils avaient simplement le signe tangible de la promesse de la rédemption. Ils étaient les serviteurs de Dieu. Et Jésus-Christ me dit, vous comprenez bien, ce n'était pas une voix audible dans ce sens, c'est par le Saint-Esprit dans mon esprit, transmis à mon esprit. Alors, si Dieu n'a pas voulu que ses serviteurs soient malades, à plus forte raison, il ne veut pas que ses fils, cohéritiers avec Christ, soient malades aujourd'hui, gloire à Dieu. De plus, la Bible nous dit qu'il nous a été établi une meilleure alliance sur de meilleures promesses. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Notez Hébreux chapitre 8, verset 6. Donc, si la guérison divine n'était pas prévue dans cette meilleure alliance, comment pourrait-on la qualifier de meilleure? Sous une alliance qui était moindre que la nôtre, les enfants d'Israël ont eu la force de faire leur chemin sans maladie, sans épidémie, et n'étant jamais, au grand jamais, affectés dans leur corps, ils ont pu vivre jusqu'au bout le nombre d'années qu'ils devaient vivre. Sous une meilleure alliance, c'est pas moi qui le dis, sous une meilleure alliance, qui est la nouvelle alliance, faut-il que nous accomplissions notre vie au travers de la maladie et des souffrances? Ceci ne tient pas debout, me semble-t-il. Bien sûr, nous avons certaines conséquences de ce que l'homme a saccagé tout l'écosystème, qu'il a détruit la nature, qu'il empoisonne les terres, à outrance même, n'est-ce pas? De sorte que même les bonnes choses périssent ou sont, pour ainsi dire, détruites, à moins de faire quelque chose de nouveau, des OGM et des choses comme ça. Et donc, on va avoir des problèmes avec tout cela par la faute de l'homme, mais pas par la faute de Dieu. Il faut bien comprendre ceci. Si une alliance est meilleure qu'une autre, elle comprend tout ce que l'autre comportait et plus encore. Sinon, en toute logique, elle ne peut être qualifiée de meilleure. Un billet de 100 euros ne vaut-il pas plus qu'un billet de 50 euros? Évidemment. Et pourquoi? Parce que il inclut en lui le billet de 50 euros et plus encore. Il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu a envoyé sa sainte parole et les a guéris. La parole qu'il a envoyée a été prononcée par la bouche des prophètes, mais la parole qu'il a envoyée pour guérir dans le Nouveau Testament s'identifie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ces paroles écrites dans le Nouveau Testament nous révèlent la sainte parole vivante et nous assurent que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est la parole de guérison et il ne change pas. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La sainte parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Saint Jean chapitre 1, verset 1 à 3, ainsi que le verset 14. On peut dire « Loué soit Dieu, loué soit Yahvé l'Éternel, et voici Jésus-Christ. Il est la sainte parole, il est le Verbe qui a été envoyé par Dieu. Lui-même a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Un jour, je m'entretenais avec une femme sur la guérison divine. Cette sœur était de formation méthodiste et son mari était un très bon agriculteur. Elle me dit que des pentecôtistes étaient venus dans cette petite ville et qu'ils avaient loué un fonds de commerce désaffecté et qu'ils avaient commencé à prêcher, donc un réveil. Sa famille en avait entendu parler et ils ont décidé d'assister aux réunions. Ils accrochèrent la remorque, ils chargèrent tous leurs enfants et se rendirent en ville pour aller à la réunion. Ils y assistèrent pendant quelque temps et ils en étaient très satisfaits. Le prédicateur prêchait sur la guérison divine et priait pour les malades. Les gens priaient autour de l'estrade et beaucoup d'entre eux priaient à haute voix. La seule personne de la maisonnée qui ne pouvait pas, vraiment pas venir avec eux était la grand-mère de cette famille. Elle était âgée de 93 ans. Ils rentrèrent donc à la maison très tard le soir et même trop tard pour elle. Or un matin, au petit déjeuner, grand-mama demanda ce qui s'était passé lors de la réunion. « Eh bien, je sais que tu ne vas pas apprécier cela, » dit la petite fille. Et elle commença à lui parler de ce prédicateur prêchant sur la guérison, faisant l'onction d'huile aux gens et leur imposant les mains pour qu'ils soient guéris. Mais grand-mama s'écria « Hourra ! Gloire à Dieu ! Oui, Alléluia ! Je suis heureuse que vous ayez découvert enfin cela. Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda sa petite fille. « Eh bien, voici, dit-elle, il y a 40 ans de cela, dans notre église méthodiste, quelqu'un était venu prêcher sur la guérison divine et il nous invita à nous approcher et à accepter Jésus-Christ comme notre bienfaiteur et médecin tel que nous l'avions accepté comme notre sauveur pour notre âme. Et je me suis avancé avec les autres. Tu es assez âgé maintenant pour te souvenir de ces 40 années passées. Est-ce que tu ne m'as jamais connu malade au cours de ces 40 ans ? Non, en effet, tu as toujours eu une forte constitution. Non, 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 dit la grand-mère. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon médecin et pendant 40 ans, je n'ai pas été malade, j'en ai maintenant 93 et cela pourrait t'intéresser de savoir que je m'en irai vers ma demeure céleste sans aucune souffrance et maladie. Je ne connaîtrai jamais un jour de maladie dans ma vie. Cette sœur me dit, nous pensions que notre vieille grand-mère, notre grand-mama, était devenue quelque peu sénile, mais elle nous encouragea à continuer d'aller à ses réunions. Grand-mama, elle vécut au-delà de 94 ans. Elle se levait avec le reste de la famille avant l'aube. Parce que dès l'aube, les hommes et les garçons étaient déjà au travail dans les champs. Après le petit déjeuner, elle lavait et essuyait toujours les assiettes, nettoyait la cuisine et la balayait, tandis que sa petite fille faisait les lits en faisant le ménage dans le reste de la maison. Dès 9 heures, elle avait l'habitude de se réunir dans la lingerie. Alors que la petite fille raccommodait la grand-mère lui faisait la lecture de la Bible. Cette sœur se souvient qu'un matin, au petit déjeuner, sa grand-maman, elle lui dit « Ce matin, je m'en irai vers ma demeure céleste, environ à 10 heures. » Nous n'avions pas fait attention, pas du tout, à ce qu'elle disait. On a pensé qu'elle radotait. Mais avant que mon mari ne s'en aille au champ, mon mari me dit « Qu'est-ce qu'elle raconte, la grand-maman ? Pense-t-elle qu'elle va retourner à la maison ?» Grand-maman alla laver tous les bols, toutes les assiettes du petit déjeuner. Elle les nettoyait soigneusement, ainsi que les casseroles nécessaires pour nourrir 8 enfants, plus 3 adultes, et elle balaya toute la cuisine. Or, à 9 heures, elle rejoignit sa petite fille dans la lingerie, elle s'assit et commença à lui lire la Sainte Bible. Sa petite fille continua, quand il fut exactement 10 heures moins 10, elle se tourna vers moi et elle me dit « Laisse-moi te lire cela ». Et elle lut le 20e et le 21e chapitre du livre de l'Apocalypse. Elle les termina vers 10 heures et elle dit « Voici, Jésus-Christ, il est là et il faut que je m'en aille. Au revoir !» Elle a fait un signe de la main et elle alla vers sa demeure céleste, assise là dans un fauteuil. Loué soit Dieu, si cela est arrivé à un méthodiste, il devrait en être de même pour n'importe qui d'autre. Alléluia! Oui, voyez-vous, nous avons si souvent présenté un petit Dieu qui est très lointain, un bon Dieu, ou peut-être une sorte Saint-Nicolas. Oui, oui, mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour moi, allez-vous me dire. Certainement pas pour moi. Eh bien, suivez tout simplement cette direction, parlez comme cela, et voyez les choses selon cette optique-là. Considérez-vous comme si vous vous considérez comme malade, si vous vous considérez comme mourant, si vous voulez cela, eh bien, évidemment, vous allez certainement mourir à un âge prématuré. Et ce que vous dites arrivera, car Jésus-Christ a tout simplement dit, si quelqu'un dit, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Saint Marc, chapitre 11, verset 23. Alors, je vais le dire à nouveau. Normalement, ou en général, ce n'est pas la volonté de Dieu, notre Père Céleste, que les chrétiens souffrent de cancer et d'autres maladies terribles qui apportent des terribles souffrances, des angoisses, de la dépression. Mais il est de la volonté de Dieu que nous allions jusqu'au bout de notre vie sur cette terre. Donc, aussi longtemps que Israël avait gardé les lois de l'ancienne alliance, vous pouvez vérifier, il n'y a eu aucune maladie parmi le peuple. Mais lorsque ils ont commencé à commettre des choses plutôt scandaleuses, voire même parfois des abominations, ils en étaient accablés. Ils avaient la possibilité de se tourner vers le Seigneur et de demander le pardon de leurs fautes et la guérison de leur corps. Car la Bible dit, si lui qui te pardonne toutes tes fautes, ah oui, c'est lui vraiment qui nous pardonne et qui guérit notre corps. Alors, vous pouvez noter Psaume 103, verset 3, et vous verrez qu'il est bel et bien écrit, car c'est lui qui te pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies, pas seulement une ou deux. Chers amis, est-ce que la guérison se trouve vraiment dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, essayons de voir cela, tout simplement, dans le livre de Jacques. Là, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. » Jacques 5, verset 14. Vous avez remarqué qu'il y a un point d'interrogation à la fin de la première phrase. Jacques pose une question. Et cette question est, quelqu'un parmi vous est-il malade? Point d'interrogation. Aujourd'hui, vous n'écririez pas une épître à une église disant, s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, vous écririez simplement, les 85 ou 90% d'entre vous qui sont malades. Le fait que Jacques pose la question implique qu'il n'aurait pas dû y avoir de malades parmi eux. Nous en déduisons que ces croyants devaient connaître l'évangile de saint Matthieu, chapitre 8, verset 17, où il est dit qu'il a pris nos infirmités et qu'il s'est chargé de nos maladies. De même, il devait connaître le verset 24 du chapitre 2 de la première épître de saint Pierre, où il est dit que par les meurtrissures duquel nous sommes guéri. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Mais de quelle Église s'agit-il là? Mais c'est l'Église du Nouveau Testament, dont tous les croyants qui la forment sont nés de nouveau, sont sauvés. Certains groupes pensent qu'il constitue l'Église. En fait, c'est inexact. Il ne représente pas l'ensemble de l'Église de Christ. Ils n'en sont qu'une partie. Je vais du reste vous dire quelque chose d'autre. L'Église primitive n'était pas très différente de l'Église d'aujourd'hui. À cette époque, le Christ était la tête de l'Église et maintenant il en est de même. Et c'est à cette Église-là que nous appartenons. Un professeur faisant de la recherche, quelqu'un avec une éducation très solide, mais ne connaissant pas grand-chose de la Bible, me dit un jour que ce verset 14 du chapitre 5 de l'épître de Jacques n'appartenait que aux Juifs. Et il disait que Jacques s'adressait uniquement aux 12 tribus qui étaient dispersées dans les nations. Son affirmation reposait sur le fait que Dieu avait conclu une alliance de guérison avec les Juifs. Il pouvait être guéri même sous la nouvelle alliance, mais les gentils, ça veut dire les non-juifs, ne le pouvaient pas, car ils ne faisaient pas partie de l'Alliance. Mais il est précisément écrit, écoutez bien, il est précisément écrit dans ce verset, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Or, cette pauvre personne n'avait pas réussi à se rendre compte qu'il y a des gentils, donc des non-juifs, dans l'Église, car qui d'autre pouvait venir à l'Église ? Et c'est pourquoi la guérison n'appartient pas exclusivement aux croyants juifs. Elle appartient, souvenez-vous et rappelez-vous pour toujours, elle appartient à l'Église. L'Épître aux Galates est une lettre pastorale qui a été écrite à toutes les églises de la Galatie, et toutes ces églises sont composées de gentils, ça veut dire des non-juifs. L'Esprit de Dieu l'affirme pleinement au travers de l'apôtre Paul. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens, donc sur les non-juifs. » Galates chapitre 3, versets 13 et 14. L'une des malédictions de la loi, c'est la maladie. Nous pourrions paraphraser ce verset de cette façon. Christ nous a rachetés de la malédiction de la maladie, s'étant fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils, ça veut dire sur les non-juifs. Gloire à Dieu. Il a envoyé mourir son fils bien-aimé dans la vie malade et affligée, dans la souffrance et dans la détresse. Il a été frappé par la pauvreté, il a dû travailler sans relâche, vivant dans la rue de la portion congrue, là-bas, à la fin du bâtiment, juste à côté de l'allée des grognons. Ne serait-ce donc pas étonnant que Jésus-Christ a dit un jour, « Si donc vous, qui êtes mauvais, simples humains faits de chair, que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, oui, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Je répète Saint Matthieu, chapitre 7, verset 11. Jésus-Christ a dit, « Si donc vous, ça veut dire nous, qui êtes mauvais, des simples humains faits de chair, c'est ce que nous sommes, et que vous savez pourtant malgré tout donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, oui, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Saint Matthieu, chapitre 7, verset 11. Chers amis, si vous avez des enfants, souhaiteriez-vous qu'ils soient vraiment malades et affligés ? Certainement pas. Maintenant, pensez-vous que Dieu nous aime beaucoup moins ? Jésus-Christ affirme qu'il nous aime plus. Oh, croyez-moi, j'en ai du reste frémi quand j'ai réalisé cela. Chers amis, avant de terminer cette étude aujourd'hui, le chapitre 53 du prophète Ésaïe nous donne un portrait graphique du Messie à venir, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. La traduction littérale en hébreu, elle nous dit « méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint et frappé par Dieu. Et nous avons même pensé qu'il avait été humilié, et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, et c'est par nos iniquités qu'il a été écrasé. Et le châtiment, gage de notre salut, pesait totalement sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. » Ça, c'est donc une traduction littérale du livre hébreu, dans hébreu, mais qui au fond correspond au livre d'Ésaïe 53, versets 3 à 6. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Alors, voyez-vous, cette traduction littérale en hébreu, je corrige pour que ce soit pas mal compris, c'est une traduction littérale qui est et qui vient de l'hébreu pour ce chapitre que je viens de vous citer, Ésaïe 53, 3 à 6. Alors, chers amis, nous sommes donc ceux, nous, qui avons transgressé, et moi y compris, bien entendu. Nous sommes donc ceux qui avons péché. Ceci aurait dû nous revenir. Et ces paroles ont un rapport avec la maladie. Oui, et les problèmes du péché également auxquels l'Église et le monde se trouvent confrontés aujourd'hui même. Vous voyez, Dieu s'est spécialement occupé de l'esprit de l'être humain, il s'est occupé de son âme et de son corps, et il a fait reposer sur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nos iniquités et nos maladies. Ainsi que saint Matthieu nous le dit, il a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 17. C'est dans cette nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament, c'est donc là la guérison qui nous est appartenue, ou qui nous appartient surtout pour cette nouvelle alliance. Je répète, la guérison nous appartient donc aujourd'hui dans cette nouvelle alliance. Alors maintenant, retournons un peu à l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 14 et 15. Il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient, et que ceux-ci loignent l'onction d'huile au saint nom du Seigneur. Donc, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Il n'est donc pas question, me semble-t-il, du salut de l'âme, parce qu'il est écrit, le Seigneur le relèvera. Il a donc déjà été au bénéfice du salut pour son âme. Mais attendez un peu, ce n'est pas tout. Je veux vous montrer quelque chose que nous avons totalement oublié ou omis à la fin du verset 15. et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. S'il a fait quoi? Eh bien, s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Il va sans dire que Dieu regarde au cœur. Et si je demande sincèrement pardon, pas un pardon calculateur et hypocrite, alors là, croyez-moi, Dieu peut vraiment, vraiment agir. Et ça, c'est absolument certain. Voyez-vous, bien que la guérison, qu'elle nous appartient, et que Jésus-Christ nous l'avait acquise, elle ne nous tombe pas comme ça, toute cuite du ciel. C'est aussi la vérité pour le salut, ça ne nous tombe pas tout cuit du ciel. N'avez-vous jamais réfléchi à tout cela? Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous, mais il a versé son sang précieux, il a souffert sa passion et il a acquis la rédemption pour chacun de nous dans le monde. Le salut, la nouvelle alliance, donc plutôt la nouvelle naissance, excusez-moi, je répète, le salut, ainsi que la nouvelle naissance, eh bien, correspond aussi à la rémission des péchés. Parce que il faut que nous demandons pardon de nos péchés et qu'il y ait la rémission des péchés pour obtenir le salut. Et donc, c'est une nécessité absolue. Alors, pourquoi ne possède-t-elle pas toutes ces choses si elles lui appartiennent? Parce que, tout simplement, la rédemption, elle ne vous tombe pas dessus comme ça, du ciel, comme je l'ai dit. Et bien que ces choses vous appartiennent, il vous faut les acquérir. Il y a toujours là quelque chose que nous devons faire. Nous devons prendre une décision. Vous pouvez soit les recevoir, soit les rejeter. Vous n'êtes pas un robot. Vous avez le libre choix. Dieu ne répondra pas, il ne répandra pas ses bénédictions sur vous par la force, par une sorte d'imposition draconienne, mais pas du tout. Vous gardez et vous avez jusqu'au bout le libre choix. Alors, je vous conseille plutôt, comme pour le salut, d'accepter la guérison que le Seigneur vous offre. Et nous allons donc tout à l'heure pouvoir prier ensemble. Et cette prière, elle doit, en quelque sorte, nous fortifier et nous aider à comprendre que nous sommes donc au privilège, en quelque sorte, pas seulement pour le salut de notre âme, mais également pour la guérison de notre corps qu'il désire nous offrir. Alors, prions maintenant ensemble et nous prierons ensuite pour tous ceux qui en ont vraiment besoin. Prions donc ensemble. Père Céleste, je me rencontre en étudiant ta sainte parole qu'il peut vraiment arriver que nous pouvons parfois décevoir nos amis chrétiens, mais également les habitants du ciel. Et cela nous interpelle. Donc, cela est à prendre au sérieux. Oui, Seigneur, nous désirons que tu sanctifies encore davantage afin de n'avoir pas à avoir honte de toi. Nous désirons surtout être libéré et ne pas être obligé d'avoir honte de toi. Nous ne voulons jamais oublier que notre corps est pour le Seigneur. Nous avons compris que notre être, esprit, âme et corps doit être conservé irréprochable, irrépréhensible. Oui, Seigneur, je te demande solennellement que ta compassion puisse permettre que si une personne qui a été soignée pour un cancer ou une autre terrible maladie et qui n'a pas pu être guérie, puisse être guérie par ta toute-puissance divine. Oui, je te demande de faire grâce et de faire miséricorde à tous ceux qui en ont besoin maintenant, ainsi qu'à tous les autres malades, et de ne pas tenir rigueur à ces personnes de leur incrédulité. Merci de les guérir maintenant. Amen.